RFI. Grand reportage.
Ils ont un jour été proches de l'État islamique ou bien un membre de leur famille en Irak. Aujourd'hui, ils en payent le prix. 2 ans après la fin du conflit, beaucoup d'hommes, de femmes et d'enfants ne parviennent pas à obtenir des documents d'identité. En leur absence, tout leur est refusé. Ils dénoncent une mise au ban institutionnalisée. Irak, la vie sans papier et sans droit des proches de l'État islamique. Un grand reportage de Lucille Wasserman.
À l'est de Mossoul, dans le secteur d'Intissar, il faut emprunter des routes cabossées et des chemins poussiéreux avant d'atteindre l'ancien marché couvert du quartier, laissé aujourd'hui à l'abandon. Ces anciennes échoppes servent aujourd'hui de domicile à une petite dizaine de familles. Le seul endroit où ces Irakiens peuvent vivre aujourd'hui.
Je vis ici avec ces personnes. On n'a rien. Ces personnes souffrent et elles n'ont rien. Ces enfants là-bas jouent sur ce terrain et ils n'ont nulle part où aller.
Daoud est installé ici avec sa famille depuis plusieurs mois maintenant. La trentaine, longiligne, le regard fatigué. Il explique qu'ils ne peuvent pas s'installer ailleurs par manque de moyens, mais aussi et surtout parce qu'aucun d'entre eux n'a de carte d'identité. Comme beaucoup d'autres, elles sont arrivées à expiration ou ont été perdues pendant la guerre. Impossible aujourd'hui de les renouveler, selon lui, assis sur un matelas posé à même le sol et entouré de ses sœurs et de son cousin. Daoud explique pourquoi.
Ma carte d'identité a expiré avant la guerre. Je dois me rendre dans ma ville pour la renouveler, mais je ne peux pas y aller. Je dois me rendre au service de renseignement et ce n'est pas si simple. Notre situation financière ne nous le permet pas et on nous accuse d'être de l'État islamique.
Des accusations qui pèsent sur tous les membres de cette famille depuis que le frère de Daoud a rejoint le groupe État islamique à Mossoul. Il est mort dans les dernières semaines de la bataille, selon eux.
On m'a dit qu'il était mort à Mossoul, dans la vieille ville. On m'a dit qu'il était mort à cause d'un raid aérien. Ici, les gens s'accusent mutuellement, vous savez. Alors depuis, on nous accuse. Nous, on n'a rien fait, mais on nous accuse.
Pour Daoud, c'est la raison pour laquelle il ne peut pas aujourd'hui obtenir de nouveaux papiers d'identité. Selon les organisations internationales, ce refus est quasi systématique pour ces familles, dont un des membres a rejoint un jour le groupe État islamique. Elles parlent d'une punition collective infligée à ces Irakiens pour des crimes qu'ils n'ont pas commis. Aujourd'hui, tout leur est refusé, y compris l'aide alimentaire.
Un jour, nous sommes allés demander des rations alimentaires. Ils ont d'abord demandé à tous les membres de la famille de fournir leurs empreintes digitales. Puis ils nous ont dit qu'il y avait une interdiction contre nous, mais qu'elle serait certainement levée dans un mois. Ça fait un an, et ils n'ont toujours rien pour nous.
La preuve qu'ils sont sur liste noire, selon eux. En Irak, ne pas avoir de documents d'identité revient à vivre sans service, sans soins de santé, sans accès à l'emploi, à l'éducation ou encore au logement. Impossible également pour ces familles de se déplacer librement, notamment à cause des nombreux checkpoints qui quadrillent le territoire en Irak. Sans papier, ces familles risquent l'arrestation à chaque contrôle. Une mise au ban de la société qui touche également les enfants. Ceux nés pendant l'occupation du groupe djihadiste n'ont jamais reçu de documents officiels. 2 ans plus tard, une grande partie d'entre eux n'ont toujours pas de certificat de naissance ni de carte d'identité. Pour le cousin de Daoud, une casquette vissée sur la tête, c'est la plus grande des injustices.
Si son frère a rejoint l'État islamique, est-ce que cela veut dire que toute la famille a rejoint l'État islamique? Est-ce que ça veut dire que cet enfant a rejoint l'État islamique? Tout le monde n'est pas Daesh. Si cet enfant ne va pas à l'école, que va-t-il devenir? Il va grandir dans la rue? Et ensuite?
Le silence pèse sous les hauts toits de cet ancien marché. Le regard dans le vide, Daoud répond à haute voix ce que tout le monde acquiesce d'un mouvement de tête.
Il deviendra Daesh.
Dans un compartiment adjacent, Baïda vit-elle avec ses 6 enfants et fait face à la même situation. Son mari a été arrêté il y a quelques mois, sans qu'elle ne sache pourquoi, dit-elle. Depuis, elle essaye de renouveler seule les cartes d'identité de ses enfants. Mais en Irak, la présence physique du père est nécessaire pour ses démarches. S'il est impossible pour lui de se déplacer, un certificat de mariage est demandé. Son dossier à la main, assise devant chez elle, Baïda explique que les autorités n'ont pourtant rien voulu entendre dans son cas.
Quand je suis allée voir les services de renseignement, ils ont demandé où se trouvait le père. Et quand je leur ai dit qu'il avait été arrêté, ils ont dit « Nous ne vous donnerons pas de pièce d'identité, partez ». Je leur ai dit « Mais regardez, j'ai ce dossier ». Ils m'ont dit « C'est inutile, partez ».
Une fois de plus, ces enfants en âge d'être scolarisés n'iront pas à l'école cette année. Malgré la volonté de Baïda, sa fille de 10 ans n'y a jamais mis les pieds. D'abord à cause du groupe État islamique, qui avait mis en place son propre système d'éducation dès 2014. Ensuite, à cause de la guerre qui a fait rage à Mossoul pendant 9 mois jusqu'en juillet 2017. Aujourd'hui, parce que ses enfants n'ont pas les papiers nécessaires.
Je veux les enregistrer. Ma fille de 10 ans n'est jamais allée à l'école. Elle m'a dit « Tu ne me laisseras pas y aller encore cette année ?» Qu'est-ce que j'y peux, moi? Elle voulait aussi y aller sous Daesh, mais il n'y avait pas d'école pour elle et on ne voulait pas les enregistrer. Et depuis, on n'a toujours pas réussi à faire renouveler leurs papiers.
Aujourd'hui, près de 80 000 familles, dont 45 000 enfants, feraient face à cette situation, selon le Conseil norvégien pour les réfugiés. Beaucoup d'entre elles ne commencent jamais la procédure de renouvellement, selon l'ONG. Trop compliquée et trop coûteuse pour elles. Pour les aider à surmonter ces obstacles administratifs et financiers, l'organisation fournit des séances d'assistance juridique à Mossoul. Daoud s'y rend aujourd'hui pour tenter de savoir si une solution peut être trouvée à son dossier. Dans une salle de réunion, une quinzaine d'hommes sont assis autour d'une table circulaire. Tous ont un dossier jaune devant eux ou à la main, leur document officiel qu'ils ont aujourd'hui pour prouver leur identité. Après des explications générales faites par 2 avocats, les participants attendent un à un de recevoir des conseils individuels. Lorsque vient le tour de Daoud, l'avocate ne cache pas son pessimisme.
Ma carte d'identité a expiré en 2012 et je souhaite la renouveler. Mais pour ça, je dois aller dans le district de Hadar. Oui, le bureau est là-bas et c'est loin. C'est loin et je ne veux pas y aller. Je n'ai pas les moyens.
Oui, écoutez, nous travaillons dans beaucoup de districts, mais pas à Hadar. Nous ne nous coordonnons pas avec les autorités là-bas.
En Irak, certaines zones, dont la ville de Daoud, restent inaccessibles aux ONG, notamment pour des raisons de sécurité. L'avocate promet toutefois de savoir si le Conseil norvégien pour les réfugiés peut au moins prendre en charge le coût des transports. Mais Daoud refuse catégoriquement de s'y rendre seul.
Vous savez, chaque fois au poste de contrôle, ils vérifient mon nom dans la base de données et me demandent pourquoi je n'ai pas renouvelé ma carte d'identité. Je leur ai dit que je ne pouvais pas, mais ils m'ont dit « La prochaine fois, si vous revenez sans carte d'identité, nous vous arrêtons ». Ce n'est pas que je ne veux pas y aller, mais je ne peux pas y aller. La situation financière n'aide pas, mais on fait face à de la haine là-bas.
Je ne peux pas y aller pour vous et demander votre dossier. Ils vont me demander pourquoi vous n'êtes pas venu.
Daoud ne retournera pas dans sa région d'origine. Beaucoup de familles accusées de liens avec l'organisation État islamique savent qu'elles sont menacées de représailles par les communautés locales. Sans plan de réconciliation nationale, elles sont condamnées à vivre loin de chez elles ou risquent leur sécurité si elles souhaitent y retourner. Devant ces multiples obstacles, beaucoup d'Irakiens dans la même situation que Daoud restent aujourd'hui dans les camps de déplacés où ils peuvent au moins avoir accès aux services de base. C'est le cas d'une partie de sa famille, installée dans le camp de Gueyara, à quelques kilomètres au sud de Mossoul. Sous une tente poussiéreuse, les parents de Daoud et la veuve de son frère décédé sont assis les uns à côté des autres. Rester dans ce camp n'est pas un choix, explique Saleh, le père de Daoud, inquiéfié sur la tête.
Où pourrait-on aller? Vous avez vu la situation de nos proches à Mossoul. Alors, où pouvons-nous aller?
Comme Daoud, sa mère explique que toute la famille est sur la liste noire du gouvernement, exclue de tout service public et de tout droit dans le pays.
Ici, nous recevons des services, mais à l'extérieur, il n'y a rien pour nous. Ils disent que nous sommes bannis. Les services de Bagdad n'envoient rien. Cela fait environ 3 ans que nous ne recevons rien de l'extérieur du camp. Voilà. Nous sommes toujours bannis depuis. Comment pourrions-nous survivre ? À l'extérieur, on essaye de leur envoyer une partie de ce que l'on reçoit ici, de la farine, du riz, du sucre.
Sans papier, certains services leur sont refusés, y compris à l'intérieur du camp. Janal, la femme du frère décédé de Daoud, explique ainsi que ses enfants ne peuvent toujours pas être scolarisés.
Même dans le camp, ils veulent une carte d'identité pour les enregistrer à l'école. Vous devez les enregistrer à Kayara et avoir tous les papiers. Puis ils envoient une lettre à l'école du camp pour compléter l'inscription et envoyer les enfants à l'école ici.
Aujourd'hui, cette famille redoute d'être bientôt expulsée du camp. Depuis la fin du mois d'août, le gouvernement irakien souhaite en effet fermer une grande partie de ses camps de déplacés. Il renvoie parfois de force la plupart de ses familles dans leur région d'origine. Sans papier d'identité, elles risquent d'être privées de rations alimentaires, arrêtées ou pire encore, tuées par les tribus locales. C'est la peur qui domine aujourd'hui dans cette famille.
Bien sûr, nous avons peur. Ils ont déjà expulsé les gens de Kirkouk, de Tikrit, de Ramadi et d'autres gouvernorats. Oui, nous avons peur. Où allons-nous aller ?
Pour le père de Daoud, seul le gouvernement est responsable de leur situation aujourd'hui.
Toute la famille est punie. Pas une d'ailleurs, mais deux familles. Deux familles punies parce qu'ils nous suspectent d'avoir eu des membres de Daesh. C'est le gouvernement qui nous punit, pas celui qui distribue les rations alimentaires, le gouvernement. Si l'épicier reçoit l'ordre de distribuer, il distribue. C'est l'État qui est derrière tout ça.
À l'est de Mossoul, dans une immense salle de réception, le gouverneur de la région balaye de la main ses critiques. Aucune mise au ban de la société n'est institutionnalisée en Irak, dit-il.
Pourquoi considérer que c'est une politique officielle? Bien sûr que non. Nous mettons en place en ce moment des comités et des bureaux pour pouvoir délivrer des documents civils à ces familles. Je suis d'avis de dire que cela doit être résolu et que nous sommes dans une situation critique. Quand je parle avec les acteurs locaux et internationaux, nous sommes d'accord pour dire que l'on doit trouver une solution au plus vite. C'est l'un des grands défis devant nous après la reconstruction du pays. Trouver une solution pour ces familles dont un membre a rejoint Daesh.
Peu de mesures ont été prises pour favoriser une réconciliation nationale en Irak. Des dialogues entre communautés sont actuellement en cours dans la région de Ninive, selon lui, pour réintégrer ces familles. Mais cela pourrait prendre encore beaucoup de temps avant d'aboutir à une solution, dit-il.
Je pense que cela demande beaucoup d'efforts de tous les acteurs du problème pour trouver une solution. Vous savez, c'est un dossier très sensible aussi en Irak, très sensible. Nous devons encore nous concerter pour vraiment arriver à gérer ce problème. On ne veut pas avoir des réactions négatives ou donner l'impression que nous soutenons l'État islamique.
Un dossier qui devrait pourtant être prioritaire dans l'Irak post-conflit, selon les organisations internationales. Tom Percosta est le porte-parole du Conseil norvégien pour les réfugiés. Selon lui, les efforts du gouvernement pour résoudre ce problème sont encore bien trop faibles, sinon même inexistants.
Le gouvernement, depuis la fin du conflit, s'est concentré sur la reconstruction du pays, des structures, des structures publiques, mais a un petit peu fait l'impasse sur les fractures sociales et sur les dynamiques sociales qui sont encore aujourd'hui extrêmement complexes. Et il faut qu'ils se concentrent là-dessus. Il faut qu'ils investissent massivement dans le dialogue et la réconciliation entre communautés. Pour ce qui est des gens sans papier en général, en fait, c'est un sujet extrêmement délicat dans le pays parce que les gens sans documentation sont perçus comme affiliés à l'État islamique. Ce n'est clairement pas la priorité du gouvernement actuellement qui considère que ces gens doivent être sanctionnés, doivent être punis. Et le problème, c'est que quand on a une personne dans une famille qui est suspectée d'affiliation, la famille entière est punie en Irak, en punition collective. Et ça, c'est à l'encontre de la Convention de Genève, par exemple.
Les conséquences de cette punition collective pourraient être désastreuses pour le futur de l'Irak, selon lui.
C'est un mauvais pari que fait le gouvernement, parce qu'on est dans une société qui est encore extrêmement traumatisée par le conflit et qui a extrêmement besoin de réconciliation. L'Irak est une société multi-ethnique, multi-confessionnelle qui est déjà extrêmement fracturée. Et en excluant toute une partie de la population actuellement, on ne fait que mettre de l'huile sur le feu. Et pour le futur de l'Irak, ça compromet sérieusement les chances de stabilité et de paix dans les années à venir. C'est pas en mettant ces gens-là au banc de la société que ça va régler quoi que ce soit. On parle la plupart du temps d'enfants et de femmes qui sont simplement victimes des choix de leur mari et qui n'ont pas eu leur mot à dire dans ce conflit. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est que ces gens-là puissent exister, puissent avoir accès à une éducation, puissent avoir accès à des soins, puissent vivre dans l'Irak d'aujourd'hui et de demain. Donc on demande que l'État irakien priorise ce problème-là, mette plus de moyens dans les structures étatiques pour que ces gens-là puissent obtenir leurs papiers. Et pour les familles qui sont affiliées ou suspectées d'affiliation, nous ce qu'on demande, c'est que les femmes et les enfants qui se retrouvent sans rien, qu'il y ait un peu une décision d'amnistie.
Une conclusion et des revendications partagées aujourd'hui par beaucoup d'ONG et d'organisations internationales. Dans un rapport publié sur ce problème, Amnesty International appelle également le gouvernement irakien à empêcher une spirale de la haine dans le pays. L'organisation parle de châtiments collectifs humiliants et tire la sonnette d'alarme sur l'état des droits humains aujourd'hui en Irak. Elle dénonce des discriminations dangereuses et craint, comme beaucoup d'observateurs en Irak, de voir apparaître les nouvelles bases d'une radicalisation future de ces familles.
Irak, la vie sans papier et sans droit des proches de l'État islamique. Un grand reportage de Lucille Wasserman, réalisation Pierre Chaffanjon, un magazine à retrouver sur le site de RFI. Stay to my step.